France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Saint-Pierre et Miquelon, deux noms que nous connaissons tous depuis l'école, mais où est-ce? Les Saint-Pierrais, les Miquelonnais ne s'étonnent plus depuis longtemps de voir leur courrier faire le tour du monde avant de leur parvenir. Ces Français d'Amérique du Nord habitent deux îles de dimensions bien modestes. Saint-Pierre, 8 km sur 4, 4500 habitants environ, pratiquement tous rassemblés dans l'unique bourg de l'île. Et puis, à 7 km de là, Miquelon, qui s'étend sur une quarantaine de kilomètres de long, mais compte moins de 600 habitants.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. La chronique politique nous a appris le 8 avril dernier que le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez, suggérait que fussent enfermés à Saint-Pierre-et-Miquelon les personnes sous obligation de quitter le territoire, les fameux OQTF. Il précisait ceci, il fait 5 degrés de moyenne pendant l'année, avec 146 jours de pluie et de neige. Je pense qu'assez rapidement, ça va amener tout le monde à réfléchir. Fin de citation. Cette proposition a été jugée assez généralement, comment dire, étrange. Et elle a suscité dans ces îles françaises au flanc de l'Amérique quelques stupéfactions, et à vrai dire, pas seulement là-bas. Au moins a-t-elle l'avantage de nous donner le goût d'un voyage en sympathie spontanée vers ce territoire tel qu'il a été forgé par la nature et par l'histoire. Et comme il se trouve que Jean Lebrun, notre cher Jean Lebrun, qui est chez lui à France Culture, a manifesté dans un livre pour ce territoire lointain une dilection particulière, je l'ai convié à venir en parler. Je gage qu'au centre de notre conversation va briller le moment célèbre de décembre 1941 qui vit la fragile autorité de la France libre et imposer sa présence contre Vichy de par la volonté inflexible de De Gaulle et à la grande fureur de Franklin Roosevelt, président des États-Unis. La symbolique de cet épisode compta dans l'essor d'une légitimité contre tous les vents contraires. Ce moment fut capital dans l'histoire de Saint-Pierre et Miquelon. Mais il faut le replacer dans la longue durée d'un petit monde qui s'est construit à partir d'immigrations successives. Un monde marqué par des conflits multiples, généralement importés, et par la vaillance de populations vouées à affronter, sur la terre et sur la mer, tous les défis d'une nature très âpre. Ainsi que l'a fort bien noté, pour lester son propos, l'acteur politique que j'ai cité en incipit.
Je salue Saint-Pierre et Miquelon, des îles aussi françaises que possible. Il y a 431 ans que Cartier est venu ici au nom de la France. Et que de drames, que d'événements depuis lors. Mais vous, que vous fussiez basque ou normand ou breton et quelques autres, vous êtes les Saint-Pierrais et vous l'êtes aujourd'hui plus que jamais. Bien sûr, le général de Gaulle doit vous dire que pendant la dernière guerre, Saint-Pierre et Miquelon a joué dans l'histoire de notre libération et par conséquent dans mon esprit et dans mon cœur un rôle magnifique. Il y a eu ici la preuve de l'indépendance française, non pas seulement parce que les îles ralliées au combat par l'arrivée de nos navires, l'Alice, l'Aconite, le Surcouf, quatre navires, dont trois ont péri pour la France. Mais encore, dans le combat avec les Alliés, Saint-Pierre et Miquelon ont été le symbole et la preuve que la France restait indépendante dans tous les sens et vis-à-vis de qui que ce soit. C'est là ce qui a été la marque de Saint-Pierre et Miquelon pendant ces années historiques. Et je vous en remercie. La France vous aime. Elle doit s'occuper de vous. Vive Saint-Pierre et Miquelon. Vive la République. Vive la France.
Jean Lebrun, bonjour.
Bonjour.
Le général de Gaulle s'exprimait lors de sa seule visite à Saint-Pierre-et-Miquelon le 20 juillet 1967. J'ai pensé que vous ne détesteriez pas cette façon d'entrer en matière.
Ben ça m'émeut même beaucoup. Et c'est un voyage étonnant, parce qu'il précède de 24 heures l'arrivée du général de Gaulle, qui était sur le Colbert. Il ne voulait pas arriver par avion, il voulait rester sur le sol français ou sur un bateau français depuis son départ de France. Ce discours à Saint-Pierre précède d'une journée le « Vive le Québec libre ».
Au balcon de Montréal.
Voilà. Et c'est un grand moment d'unité pour Saint-Pierre et Miquelon. Quand Laurent Wauquiez a fait les déclarations que vous citiez, toute la classe politique de Saint-Pierre et Miquelon a rappelé le rôle que l'archipel avait tenu pendant la France libre.
Le contraste d'emblée frappe entre la dimension du propos, la dimension du personnage, et d'autre part, le caractère géographiquement limité et démographiquement limité de ces deux îles de Saint-Pierre et Miquelon. Peut-être faut-il rappeler ça d'emblée, Jean Lebrun.
Ben oui, mais là, vous parlez comme parlaient les Vichyards, les adversaires de la France libre.
Ouais, c'est agréable.
Qui disaient, qu'est-ce que c'est que cet archipel? On peut rien dans le monde, c'est pas nous qui allons nous dresser contre les puissances de l'Axe, alors que pendant la guerre, les sous-marins allemands rôdaient, nous ne sommes que des chieurs de mouches, etc.
Mais c'est pour contredire cela que je piquais.
Et le général de Gaulle lui disait, non, Saint-Pierre et Miquelon, c'est la France. Et il s'agissait pour lui de s'assurer de Saint-Pierre et Miquelon comme d'un territoire naturellement, historiquement français.
Rappelez-nous quand même la dimension spatiale, simplement géographique et démographique, bah, ne serait-ce que pour mettre en valeur ce puissant contraste qui va animer notre conversation.
C'est 242 km², à quelques kilomètres de Terre-Neuve, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. C'est un territoire isolé, apparemment.
Avec 6 000 habitants environ.
6 000 habitants à l'époque.
Et un dixième à Miquelon.
Oui. Il faut se figurer un petit ensemble d'îles. Saint-Pierre, c'est la plus peuplée. À côté, il y a l'île aux Marins. Et Miquelon, un peu plus loin. Rien n'est plus loin de Saint-Pierre que Miquelon. Rien n'est plus loin de Miquelon que Saint-Pierre. Ben, il faut une assez longue traversée pour joindre les deux îles importantes de l'archipel.
Entre les deux, l'Anglade.
Et entre les deux, l'Anglade, dont Laurent Wauquiez pense que c'est une presqu'île. Ça, c'est plutôt une île, mais enfin, on ne va pas insister trop sur...
Ne chicaner pas trop.
L'information d'ailleurs, géographique de Laurent Wauquiez.
Les habitants, d'ailleurs, eux-mêmes, on en fait plaisanterie. Au QTF, ils ont appelé ça « On vit en quête de tranquillité » ou bien « Ouvriers qualifiés pour travailler dans le froid ».
Alors, le mot « froid », c'est très, très important. Ce sont des îles noyées dans le brouillard. Au confluent du courant du Labrador et du Gulf Stream, quand Chateaubriand vient en 1791, qu'il débarque à la suite d'une avarie pour une quinzaine de jours à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il dit « J'ai mis plusieurs jours à voir où j'étais, à voir un rayon de soleil éclairer le paysage et une ombre se profiler ».
Si le temps le permet. C'est une formule familière là-bas.
Oui, qu'on utilise tous les jours parce qu'on ne sait pas le temps qu'il va faire l'après-midi, on ne sait pas le temps qu'il va faire le lendemain.
Et vous citez dans votre livre quelque part le mot d'Alain, le philosophe, le premier facteur historique, c'est le temps qu'il fait.
Alors donc, le climat est hostile et ce n'est pas un pays fait pour les complexions délicates. On peut prendre l'exemple de la neige. Elle est très particulière à Saint-Pierre et Miquelon parce qu'elle tombe souvent horizontale. Et on l'appelle dans ces circonstances le poudrin, parce que le poudrin pénètre profondément, passe sous les portes et sous les fenêtres. D'ailleurs, les maisons sont séparées de la rue par un tambour qu'on enlève l'été, mais qui permet d'atténuer les effets du climat difficile l'hiver.
Alors, il faut que nous commencions, Jean Lebrun, en évoquant même promptement la question des origines de ces populations. D'où viennent-elles? On le sait assez bien.
Moi, j'ai un guide, c'est Chateaubriand. Il ne sait pas très bien où il est, il ne sait pas très bien où il va, mais ce n'est pas le mettre dans ceux des paléo-esquimaux et des Indiens de l'Amérique archaïque.
Ils sont venus par le Nord, on le sait bien.
Ils sont venus temporairement, pendant une partie de la saison la moins hostile, pour pêcher. Et Chateaubriand, d'instinct, il emprunte un chemin dans la forêt naine, parce que les arbres ne poussent pas très haut à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a d'ailleurs très peu de bois utilisable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et il arrive dans une anse qui s'appelle l'anse à Henri, en face d'un gros rocher. Le colombier, il est émerveillé par cet endroit. Il est accompagné de son ami Tulloch, qui récite des poèmes d'Ossian, le barde pré-romantique.
Imaginaire.
Cher à Chateaubriand. Et d'instinct, il a retrouvé l'endroit le plus ancien de l'archipel. C'est un endroit qui était peuplé temporairement et où actuellement des fouilles depuis 1999 ont essayé d'établir les circonstances de l'habitat irrégulier qui s'y pratiquait. Avant Jacques Cartier, il y a eu pendant longtemps des Vikings. Il est établi qu'ils ont pêché du côté des bancs de Terre-Neuve. Il y a des traces. Et puis, il y a eu, alors dans l'histoire européenne moderne, il y a eu les Portugais, qui sont les premiers à avoir découvert, entre guillemets, Saint-Pierre-et-Miquelon.
Avant Cartier, donc.
Avant Cartier, une quinzaine d'années auparavant. Il y a eu les Basques, on ne va pas les compter dans les Français à cette époque-là, qui étaient d'extraordinaires marins, qui ont pratiqué beaucoup l'archipel. Il y a d'ailleurs encore une pelote basque, des fêtes basques, des bérets basques, très très nombreux à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les Français sont venus un peu après, les Malouins particulièrement. Moi je suis Malouin, j'ai été élevé avec des bottes de marin derrière la porte, pendues à un porte-manteau.
Vous avez échappé à l'exil vers Saint-Pierre-et-Miquelon?
Oui, mais j'ai toujours eu le désir d'y aller. J'ai fini par satisfaire tardivement ce désir. Les premiers habitants d'origine française, avec cette multiplicité de sources de peuplement, ils sont peut-être 100 à la fin du XVIIe siècle, avec un tout petit fortin sur une des îles. Leur capitale, c'est plutôt sur l'île de Terre-Neuve, Plaisance,
qui est tout proche.
Qui a été pendant la Deuxième Guerre mondiale une base américaine utilisée dans les combats de 1941-1945. Et ce qui attire les premiers habitants permanents, qu'ils soient français ou qu'ils soient anglais, parce que ce sont les deux grandes nationalités qui vont organiser le partage de la région, ce sont les trésors de la pêche à la morue.
Il n'est pas inutile de rappeler que la souveraineté, pendant ces décennies-là, a alterné entre la Grande-Bretagne d'un côté et la France de l'autre.
Oui, à de multiples reprises, le nom de Saint-Pierre-et-Miquelon apparaît dans les traités internationaux. Utrecht, 1713, l'Angleterre accorde pour un moment l'exploitation saisonnière des côtes de Terre-Neuve à la France. Ensuite, le traité de Paris, on a dit que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était le dernier vestige de l'Amérique française. Pas exactement, parce que le traité de Paris attribue à la France Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ne faisait pas partie de la Nouvelle-France. On est à 1300 kilomètres de Québec ou de Montréal.
Mais on n'a jamais anglicisé son nom.
Non. Et puis ensuite, Saint-Pierre-et-Miquelon va être disputé entre Français et Anglais à l'occasion des guerres d'indépendance d'Amérique et des guerres de Napoléon, avec à chaque fois d'ailleurs des transportations d'hommes et de femmes qui sont déplacées par les Anglais. Ainsi, la grande famille qui exploite le grand commerce de Saint-Pierre, c'est la famille Dagor, qui a dû partir au moment d'une occupation anglaise, qui est revenue, qui a dû être transportée de nouveau en France, pour faire son retour définitif en 1815-1816, quand le traité de Vienne attribue Saint-Pierre et Miquelon à la France.
Définitivement. En tout cas, jusqu'à présent.
Il faut imaginer qu'on est dans une zone de mondialisation, malgré les apparences d'isolement de Saint-Pierre et Miquelon.
Dès ce moment-là.
La pêche à la morue, elle est considérée comme vitale, essentielle pour la population européenne, mais aussi bien peut-être pour les esclaves des plantations des Antilles, qui vont consommer de la morue séchée venue de l'archipel ou venue de Terre-Neuve. Terre-Neuve, c'est les bancs de Terre-Neuve. Saint-Pierre et Miquelon sont sur les flancs des bancs. C'est 1000 kilomètres de long, 450 kilomètres de large, et une fréquentation incessante de bateaux qui attendent que la morue survienne, parce qu'elle se faufile. C'est une richesse incalculable, et c'est une richesse produite pour les pauvres, parce que la morue, c'est la protéine des pauvres, par des pauvres.
Le métier est extrêmement rude, il faut que nous en restituions la réalité. De fait, Jean Lebrun...
C'est le grand métier.
Il faut envoyer un auteur qui mérite que l'on le considère, c'est Jean Rocher, 1977. Dites-nous qui il est, après je vous le ferai entendre.
C'est un capitaine de vaisseau qui a été repéré par Jean Mallory et qui a fait sur la pêche...
La fameuse collection Terre humaine.
Un grand, grand livre tardif, puisqu'il correspond à la dernière époque de la pêche, mais ce sont les mêmes circonstances, les mêmes caractéristiques qu'on retrouve depuis le XVIe et le XVIIe siècle. Juste à l'époque de la grande pêche qu'a connue Jean Rocher, s'était organisé, c'est le cas depuis le milieu du XIXe siècle, une méthode assez particulière, dont les récits ont bercé mon enfance. Les marins partaient pour Terre-Neuve, depuis Saint-Malo, depuis Fécamp, depuis d'autres ports, en février-mars, ils allaient rester jusqu'à l'automne, jusqu'à la Saint-Michel au moins, sur les bancs de Terre-Neuve.
Donc pas d'été pour eux.
Pas d'été pour eux. Les marins tiraient au sort des numéros d'Oris, des petits canots à deux personnes dans l'équipage, et les Doris partaient en étoile depuis les bateaux, les goélettes, et ils pêchaient la morue, et souvent se perdaient en mer, dans la tempête, dans la brume, et ils étaient équipés d'une sirène ou d'une cloche, la vache, et cette vache résonne sans cesse dans la mémoire du grand métier, parce qu'elle annonce, comme le coup de grisou chez les mineurs, la mort qui peut survenir dans le travail.
Un extrait donc, Jean Lebrun, un extrait du grand métier de Jean Rocher et une interview de lui-même, on est en 1977, dans les après-midi de France Culture, le 20 septembre.
La Compagnie Générale de Grande Pêche, propriétaire du voilier Étoile de la Mer sur lequel j'étais embarqué, en qualité de second capitaine, m'offre le commandement de son chalutier Auguste Lebrun pour aller faire la pêche à la morue en Islande et ensuite sur les bancs de Terre-Neuve. La campagne de pêche a été très fructueuse. En décembre, la pêche terminée, faisant route vers la France, étant en plein océan Atlantique, après avoir essuyé une terrible tempête, il s'est déclaré une forte voie d'eau dans la partie avant du navire. L'eau commençait à arriver dans les autres cales à poissons vers l'arrière. Nous commencions à arriver dans une position très critique. Il a donc fallu prendre la décision, avec les principaux de l'équipage, d'abandonner le navire. Nous avons envoyé un SOS avec notre position. Et le cargo de 10 000 tonnes Neil Nielsen de Haugensund, de Norvège, nous a recueillis après de nombreuses difficultés car la mer était déchaînée et nos embarcations se sont démolies le long de notre bord. Nous avons rallié Saint-Pierre et Miquelon à Terre-Neuve et nous sommes rentrés en France le 25 décembre après 10 mois d'absence. Car à l'époque, nous faisions toute la campagne de pêche sans venir en France. Nous touchions le port de Saint-Pierre et Miquelon, colonie française, pour livrer notre poisson et faire le ravitaillement de temps en temps. Je ne veux pas m'étendre sur notre triste et dur métier à ce moment-là, et surtout dans les 7 années que j'ai faites sur les voiliers d'Éternel.
Oh là 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 là, oui, oh là là, c'était terrible, hein. C'était très très dur, hein. Vous savez, il fallait être né dans une famille. Évidemment, on entendait ça depuis notre plus tendre jeunesse. Moi, j'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans. J'entendais mon père toujours raconter la même chose. Ben, alors, quand on prenait, ben, on n'était pas étonné, voyez-vous. Mais c'était très, très dur. D'abord, il n'y avait pas d'hygiène. On ne se lavait pas, il n'y avait pas d'eau. On embarquait sur ces bateaux-là 6 tonnes d'eau. Et ces 6 tonnes d'eau-là, c'était uniquement pour faire la soupe et faire le café. Autrement, on ne se lavait pas, on se lavait avec l'eau salée. C'était très, très dur. Hein.
Beaucoup de naufrages, d'ailleurs, il y a encore des carcasses de navires, en particulier près de l'isthme qui sépare l'Anglade de Miquelon.
Il y a le haut des mâts qui apparaît depuis le 18e ou le 19e siècle. Guillaume Janin, chartiste, qui a réorganisé les archives de Saint-Pierre-et-Miquelon, a commencé à initier une cartographie des naufrages. Il y en a eu des centaines dans la région.
La grande période de la pêche à Amoruche, c'est-à-dire en gros 1850-1900, est marquée notamment par des relations très difficiles avec les Anglais.
Oui, parce que les Anglais qui avaient accordé à la France en 1753 à contre-cœur Saint-Pierre et Miquelon avaient aussi permis la possibilité d'une petite pêche sur les côtes de Terre-Neuve, ce qu'on appelle le French Shore. Et souvent, les marins de Saint-Pierre préféraient travailler sur le French Shore et faire aussi du cabotage, de la pêche de 24 heures.
Et la pêche errante et la pêche sédentaire, qu'il faut distinguer.
Plutôt que d'être sur dans l'enfer, sur mer, qu'étaient les goélettes, avec les conditions de travail qui ont été décrites il y a un instant. Mais évidemment, à Terre-Neuve, on n'aimait pas beaucoup cette particularité.
Alors, il y a la guerre des appâts.
La guerre des appâts, ça consiste pour les Terre-Neuviens à interdire la vente d'appâts aux Saint-Pierrais et aux Français qui viennent faire la grande pêche. Parce que pour qu'on puisse pêcher la morue, il faut l'attirer. Alors, il faut l'attirer avec de la boëte, il faut l'attirer avec du caplan, il faut l'attirer avec de l'encornet. Et à partir de la fin du 19e siècle, à Terre-Neuve, on a interdit l'accès à la boëte aux pêcheurs français, ce qui a obligé les pêcheurs français à se replier sur des conditions beaucoup plus difficiles. Et ça a laissé l'espace disponible l'être seulement à la grande pêche qui est contrôlée par des armateurs et qui n'a pas de base locale. Et ces armateurs, les gros du quai, sont soit des métropolitains, soit des Saint-Pierrais riches, ces armateurs, ils imposent des conditions de travail qui restent, qui demeurent épouvantables pour les hommes et aussi bien pour les jeunes gens, parce que travaillaient aussi dans la pêche à la morue de jeunes garçons qui étaient enrôlés.
Voilà les graviers qui surgissent dans notre conversation.
Ils étaient enrôlés de force par des sergents recruteurs qui pouvaient être des femmes. Ils étaient même parfois volontaires. C'était l'époque, à partir du milieu du 19e siècle, où la population rurale était à son apogée.
En Bretagne essentiellement.
Alors, il venait de Bretagne, mais il venait aussi beaucoup de Normandie, de la Manche en particulier. Au début, les premiers graviers, c'est les années de la monarchie de Juillet. Au début, il y avait eu même des Basques.
C'est le temps des grands débats sur le travail des enfants, d'ailleurs.
Et il n'était pas question de limiter le travail des enfants à Saint-Pierre et Miquelon. Les enfants, alors, il faut imaginer ce qu'était le travail des graviers. Ils arrivent.
D'où vient le mot gravier, d'abord ?
Les graves, ce sont des grèves, ce sont des plages de cailloux qui sont soit naturelles, soit artificielles. Et on va exposer la morue pour la sécher sur ces graves. Soit la morue est pêchée et elle est livrée fraîche. C'est en 1900 le cas de la moitié de la production de morue française. Soit elle est exposés sur les graves, les graviers sont obligés, sous la conduite des maîtres de graves, dans les habitations, c'est ainsi qu'on désignait les lieux, ils sont obligés à retourner la morue sans cesse. On retournait la morue une fois, deux fois, trois fois, six fois, sept fois, jusqu'à 10 fois. Et elle était, entre chaque exposition au soleil, elle était amassée dans des équivalents de meules, des tas de morues. Et donc les graviers, ils retournaient et ils transportaient la morue qui était en train de sécher. Il pouvait avoir 16 ans, il paraît bientôt un livre d'Alexis Glohagin, descendant de Gravier, qui raconte comment son ancêtre, à 16 ans, a été embarqué depuis un village de centre-Bretagne, mais il pouvait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune. Alors, vous parliez de la législation sur le travail des enfants, l'essentiel 1892... en France, mais la France métropolitaine, c'est pas Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est une colonie,
considérée comme
avec
une colonie,
un gouverneur, sans parlementaires, avec un instant un conseil général, un moment des municipalités. Ce sont les gros duquets conduits par le gouverneur qui décident du tri de la législation française applicable ou pas. Et la législation sur le travail des enfants n'est pas applicable là-bas.
Eh bien, ce destin des petits graviers a été évoqué par Théodore Botrel, le fameux auteur de chansons bretonnes qui est surtout connu
pour Lapin Polaise.
Pour Lapin Polaise, et qui a écrit une chanson qui s'appelle Les petits graviers, interprétée ici par RLB en 2021.
D'à peine 15 ans âgé, sur les bancs de Terre-Neuve, dis-moi, petit gravier, mais pourquoi partez-vous? Comme il le faut bien, notre mère est veuve, et l'on n'a plus de pain à manger chez nous. Mais quand vient février, partez-vous, on est pour le moins 700 à 800 qui s'en vont là-bas, mais n'en reviendront pas tous. La charge complète à la côte bretonne, pauvre petit gravier, mais quand reviendrez-vous? Parti en hiver, on rentre en automne, nous ne reverrons plus les étés si doux.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Alors Jean Lebrun, dans cette évocation que nous proposons de l'histoire de Saint-Pierre et Miquelon, que nous proposons ce matin, il faut en venir à ces années qui, un peu paradoxalement, ont été des années dorées pour l'archipel, c'est-à-dire les années des 20, grâce à quoi? Grâce à la prohibition, puisqu'on sait que dans un de ces mouvements collectifs qui vont loin parfois, la démocratie américaine a supprimé tout accès à l'alcool, ce qui a fait le bonheur de vos chères îles dont nous parlons.
Oui, les archipéliens, comme on dit maintenant, ils gardent d'heureux souvenirs du passé, parce qu'ils ont souvent une disposition au bonheur, dès que le temps le permet. On va jouer de la musique, par exemple, et se livrer aux plaisirs qui ne sont peut-être pas possibles le lendemain. Alors, leur grand moment de bonheur, disséminé le long des années, ce sont ceux passés dans les cabarets. Il y a un film de Hervé Ballet qui s'appelle « Entre terre et mer » et qui imagine un cabaret qui s'appelle la croupe au vent. Bon, la morue joyeuse.
Bien.
Et l'autre grand souvenir, alors qu'il lui est très ponctuel, c'est celui lié à l'époque de la prohibition, parce que les Iliens sont des opportunistes. Dès qu'une possibilité s'ouvre à eux, ils l'exploitent. Parce que demain, ça ne sera peut-être pas possible de retrouver les mêmes circonstances.
Mais ça a été magnifique, en réalité, pour la prospérité de
la Miquelon. Parce que donc on importait les boissons venues d'Europe. Elles étaient taxées, mais très modérément, selon les taux français habituels.
Ce qui était parfaitement légal.
Et après, on redistribuait dans l'espace nord-américain.
Sans s'interdire de traiter parfois avec des mafiosi, d'ailleurs, des gens qui étaient à la limite de la légalité.
Tout était à la limite de la légalité. C'est-à-dire qu'on a vu en l'espace d'un instant toute une société changer. Les marins pêcheurs étaient tentés de ne plus pêcher. Les fonctionnaires, ils allaient le soir, une fois leurs heures de bureau terminées, entreposer dans des magasins construits à cet effet, qui subsistent d'ailleurs, des magasins en béton, datés.
En bois aussi, on a parlé de whisky architecture,
voilà.
à cause des boîtes où on enfermait le whisky.
Oui. Et puis, même le clergé, finalement, a baissé les bras et a choisi d'obtenir l'argent des mafiosi, des trafiquants divers, parce que ce commerce, évidemment, n'est pas resté entre les mains des seuls Saint-Pierrais, et il a été organisé en sous-main par de beaucoup plus puissants qu'eux.
Les prêtres, vous voulez dire, vous nous dites ça, vous, Jean Lebrun, que les prêtres ont mis la main dans ce commerce?
Si les amis des mafiosi mettaient beaucoup d'argent en billets dans les troncs, ils ne refusaient pas l'usage de cet argent. Et il ne faut pas raconter aux Saint-Pierrais que les mafiosi, c'était si important que ça, parce qu'ils ont leurs héros, qui sont des contrebandiers locaux. Le plus fameux, peut-être, parce qu'il a exercé longtemps, au grand dépit des autorités canadiennes qu'il avait interdites de territoire, c'est Henri Morazet qui a fondé l'équivalent d'un musée, d'ailleurs, à Saint-Pierre.
Eh bien, vous voulez son témoignage, j'en suis sûr. Le voici. C'est un extrait de l'émission Une même source de Georges Decaune sur TF1 le 27 août 1981.
Or ici, à Saint-Pierre, ça s'est passé très bien parce que tous les bateaux venaient tous les mois ici. Et puis, ils ont levé à peu près 25 000 caisses par mois.
25 000 caisses de quoi?
De whisky, cognac, champagne et tout ça.
Et ça venait d'où tout ça?
Tout ça, ça venait d'Angleterre, de France.
Et c'était stocké à Saint-Pierre?
C'était stocké à Saint-Pierre. Du reste, j'ai des magasins là-bas. Et bien, c'était là, c'était stocké.
Mais tout ça, c'était très légal.
C'était très légal. On payait les droits à l'arrivée et puis allez, on chargeait. Les bateaux venaient à ce moment-là quand la lune baissait pour aller sur les côtes d'Amérique pour ne pas être pris. J'ai été chercher 6000 gallons de rhum de Demerara que j'ai payé 25 cents le gallon et que j'ai revendu au Canada pour 13 dollars le gallon.
Ouais, c'est une bonne opération,
c'est
ça.
C'est une sacrée bonne opération.
Quels étaient les risques de ces opérations?
Oh, ben, il n'y avait pas beaucoup de risques, du moins vous étiez prudent et que vous n'alliez pas en dans des limites. Mais alors, j'avais des bateaux de vitesse qui faisaient 32 000 à l'heure, qui portaient à peu près 200 caisses, 300 caisses, et puis alors, ils venaient sur le grand bateau, prenaient ça, puis rentraient dans le port.
Et vous n'aviez pas des gardes-côtes aux fesses de temps en temps?
Oh oui, mais on les payait, entre nous, pour le dire. Il y a les Américains, les Canadiens, mais on les achetait entre nous.
Oui?
Oui. Faut pas dire trop ça.
Non, ça, on ne dira pas. Vous faisiez les affaires avec les Canadiens ou avec les Américains ou avec les deux?
Je faisais avec les deux, avec les Américains et avec les Canadiens.
Et lorsque la prohibition a été terminée, M. Morazet, ça a dû être un jour de deuil pour vous?
Non, j'ai continué après. Le trafic sur le Canada. Et puis alors, après ça, est venue la France libre. Puis alors, j'ai été obligé d'arrêter complètement. Oui. Mais j'ai fait des bonnes affaires encore après. J'ai fait une fortune.
Morazet nous conduit précisément vers le moment qu'on peut dire très heurté, en même temps lumineux, celui de l'époque de la France libre. Lui a été très clairement du côté de Vichy, Jean Lebrun.
Oui, parce qu'il a été mis sous contrôle de la France libre tout de suite quand elle a débarqué. Quand elle s'est assurée de Saint-Pierre et Miquelon en décembre 1941.
On peut peut-être s'arrêter un instant néanmoins sur l'administrateur que la période du Front Populaire avait installé à Saint-Pierre et Miquelon et qui, par fidélité à Vichy, a été progressivement mis de côté. C'est Gilbert de Bournat, un homme digne d'intérêt.
Oui, un aristocrate passionné par le service et qui a hérité de l'archipel une fois fini. Le trafic d'alcool.
Il écrit à sa mère, il faut bien constater que depuis 400 ans, notre pauvre archipel et ses habitants ont toujours été dans la misère noire, malgré tous les efforts de mes très nombreux prédécesseurs. Je n'aurai donc pas la prétention de réussir à sortir de cet état de choses imposé par la situation du pays qui est littéralement étouffé par de trop puissants voisins et aussi, il faut bien le dire, oublié également par la mère patrie, mais j'ai au moins l'espoir d'améliorer, si peu que ce soit, la situation et en définitive de laisser le pays lorsque je le quitterai dans une condition meilleure que celle où je l'ai trouvé à mon arrivée. C'est un regard assez général des administrateurs lorsqu'ils arrivent dans l'archipel.
Mais lui, il était des plus actifs et des plus inventifs. Alors il a imaginé d'élever des visons, il a imaginé de créer une piste d'aviation, il n'y en avait pas. Il a essayé de remettre les marins pêcheurs qui avaient profité de la prohibition au travail, dans leurs conditions anciennes. Enfin, c'était quand même un homme courageux, un ancien aviateur de la guerre de 14, et qui aurait pu, en 1940, quand il s'est trouvé à la croisée des chemins, choisir de ne pas suivre le maréchal Pétain.
Il a choisi la fidélité, de fait, et a été rejeté au bord de l'histoire. Alors, nous en venons à ce moment essentiel où Saint-Pierre et Miquelon figurent de façon décisive dans la grande histoire de la France en particulier. Et le général de Gaulle l'évoquait dans le propos, dans la locution que je donnais à entendre au début de notre conversation, Jean Lebrun.
Pour de Gaulle, Saint-Pierre et Miquelon, c'est une des bases de la France. Pour de Gaulle, c'est pas la première base libérée. Hein. Les hommes politiques de Saint-Pierre et Miquelon, dans la polémique récente, ont voulu rappeler que c'était la première possession de la France libre.
C'est pas tout à fait vrai.
Ben, c'est pas tout à fait vrai.
Même pas du tout.
Il y a eu les Nouvelles Hébrides, il y a eu Tahiti, il y a eu les comptoirs français de l'Inde, et il y a eu surtout l'Afrique. L'Afrique équatoriale française, jusqu'au Cameroun inclus. L'historien Jennings, qui a beaucoup étudié le rôle de l'Afrique dans la France libre, explique que le prototype du français libre, c'est bien évidemment le marin breton qui embarque, qui va se retrouver peut-être à Saint-Pierre et Miquelon, mais c'est aussi le soldat fantassin noir, parfois enrôlé de force, mais qui va devenir un combattant conscient les années passant et l'emmenant derrière le général Leclerc jusqu'à la Tunisie et jusqu'à Strasbourg.
Comment alors cet archipel dont nous parlons ce matin, Jean Lebrun, Saint-Pierre et Miquelon, devient-il central dans l'essor de la France libre? Et pourquoi et comment est-il devenu symbolique?
C'est une décision du général qui a voulu envoyer des marins, l'amiral Muselier notamment, qui était le chef de la marine de la France libre, jusque dans ses parages.
Il faut dire qu'il avait entendu dire que les Canadiens pouvaient éventuellement être tentés de mettre la main sur ces îles parce qu'il y avait un poste de radio important.
Voilà. Et que les émetteurs qui pouvaient être puissants s'ils tombaient entre les mains des adversaires de la France pouvaient jouer un rôle dans la destruction des sous-marins allemands qui étaient nombreux à rôder dans le golfe du Saint-Laurent. Le général de Gaulle envoie l'amiral Muselier aussi, peut-être, à Saint-Pierre et Miquelon pour l'écarter, parce qu'il trouve qu'il intrigue trop, qu'il n'est pas un officier si loyal que cela, qu'il cède à son goût de l'intrigue.
Il faut savoir qu'effectivement, un peu plus tard, la rupture sera consommée. Muselier est celui qui avait inventé la Croix de Lorraine, c'est intéressant de le noter. Mais ensuite, visiblement, on le sait, il a eu le désir plus ou moins de prendre la place du général de Gaulle, et en tout cas, il était prêt à plus de concessions que la raideur du général manifestait envers les alliés, les Anglais, surtout les Américains.
Alors, il part à la tête d'une minuscule armada de 3 bateaux qui seront rejoints par le sous-marin Le Surcouf. Le général de Gaulle, qu'on entendait au début de l'émission, cite leur nom. Parmi les officiers qui accompagnent l'amiral Muselier, il y a le jeune aspirant Alain Savary, qu'on retrouvera tout au long de cette histoire. Le voyage est acrobatique. Les frêles, le bateau, qui sont des casseroles qui tiennent à peine l'eau, qui sont extrêmement inconfortables, partent d'Écosse, rejoignent Reykjavik, et puis ensuite Halifax, à Terre-Neuve. L'amiral Muselier, il est obligé d'obéir au général de Gaulle. En même temps, il aurait voulu prévenir les Alliés, les Canadiens, les Américains, que l'intervention de la France libre était là, imminente.
Alors que justement, de Gaulle veut que ce soit une surprise.
Voilà. Et la surprise, elle vient d'un événement que le général de Gaulle lui-même ne pouvait pas contrôler, c'est l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, parce que la minuscule armada française compte intervenir juste après que les Japonais ont attaqué Pearl Harbor. Et alors, les alliés ne sont pas prévenus. Le climat est électrique quand les trois bateaux français et le Surcouf, le sous-marin qui barre la rade de Saint-Pierre-et-Miquelon, interviennent dans la nuit du 23 au 24 décembre 1941. Et les États-Unis vont être extrêmement mécontents de l'intervention française, qui réussit sans coup férir, parce que le gouverneur de Vichy, Bourna, n'a à sa disposition qu'une demi-douzaine de gendarmes, et que la population est enthousiaste et d'instinct soutient l'intervention de la France libre. Beaucoup de Saint-Pierrais attendaient depuis 1940 l'intervention de De Gaulle.
Sur l'irritation de Roosevelt et des siens, nous sommes fort bien informés, en particulier son secrétaire d'État, son ministre des Affaires étrangères, Cordell Hull, qui a cette formule qui est restée fameuse, les soi-disant, the so-called free French, les soi-disant Français libres. Évidemment, c'était très mal reçu à Londres, et même par Churchill, qui, au fond, là, comme dans d'autres cas, a finalement soutenu De Gaulle.
Alors que les Américains lui demandaient de remettre le général dans sa boîte et de refermer le couvercle dessus. Mais il faut dire que le général De Gaulle, ou du moins l'amiral Muselier, peut-être davantage, ont eu une idée de génie qui risquait, enfin, d'être soutenu par l'opinion publique américaine, qui ne suivait pas Cordell Hull. C'était d'organiser un plébiscite de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le général de Gaulle commençait à évoluer vers une pratique plus démocratique. Il avait, dans un fameux discours à l'Albert Hall en novembre 1941, prononcé pour la première fois les mots de la République, liberté, égalité, fraternité. Il commençait à concevoir la possibilité de l'introduction de la démocratie dans la France libre. Et l'amiral Muselier, qui était républicain de tempérament, qui a eu beaucoup de contacts avec les républicains dans l'avant-guerre...
Les radicaux, notamment.
Oui. Ce qui n'était pas l'habitude des officiers de la Royale. L'amiral Muselier a joué sur cette carte démocratique et il a décidé d'organiser un vote. On a des photos de ce vote. C'est donc le jour de Noël 1941, c'est le plus beau cadeau que la France libre ait pu faire à l'univers. Les Saint-Pierrais viennent voter. Et il n'y a que les hommes qui viennent voter, mais les jeunes gens de 18 à 21 ans.
Ça a été une idée très génie de l'amiral et de son collaborateur, nous reviendrons sur lui, Alain Savary, de faire ce référendum dont les chiffres sont finalement intéressants à relever. On peut les donner, ce qui d'ailleurs rappellera la dimension démographique de l'archipel dont nous parlons, Saint-Pierre-et-Miquelon, ce matin. Jean Lebrun, 990 votants, 807 exprimés, 651 pour la France libre et 11 pour le ralliement à l'axe. Il faut dire qu'ils avaient choisi une formulation un peu spécifique, Savary et Muselier, puisqu'ils avaient donné à choisir entre le ralliement et la France libre ou le ralliement aux forces de l'axe.
C'est plus un plébiscite qu'un référendum. D'ailleurs, Alain Savary l'a toujours reconnu.
On trouve d'ailleurs sur cet épisode, dans les mémoires du général de Gaulle, des lignes définitives qui méritent qu'on s'y rapporte. Mais centrons l'attention sur ce personnage d'Alain Savary, qui mérite vraiment l'attention à ce moment-là et pour la suite d'un destin qui est plus qu'honorable, qui est très respectable.
Et il a 23 ans, il va quitter l'uniforme pour devenir administrateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le vœu du général de Gaulle. Il va décider de s'habiller en sombre pour paraître plus vieux qu'il ne l'est. Il va devoir comptabiliser tous les morts. Parce que si on inscrit les jeunes gens de 18 à 21 ans, c'est dans l'espoir, qui n'est même pas secret, qu'ils s'engagent. Dans la France libre, ils sont des centaines à le faire dès les premiers jours de l'installation du général de Gaulle. Et tout de suite, beaucoup d'entre eux vont tomber. Deux des trois corvettes qui ont accompagné la minuscule armada font naufrage, sont torpillées.
On périt pour la France, disait De Gaulle dans les propos que je donnais à entendre au début de cette émission, Jean Lebrun.
Et le grand sous-marin, le Surcouf, qui barrait la rade au moment de l'intervention de la France libre, va à son tour être torpillé et disparaître corps et biens. Donc le jeune Alain Savary, c'est celui qui doit accompagner les familles des jeunes gens dont il a contribué à l'enrôlement. Et il est contraint par le général de Gaulle à jouer un rôle d'administrateur civil alors qu'il brûle d'aller au combat, ce qu'il va finir par faire, mais seulement à la fin de 1942, un an plus tard, il deviendra compagnon de la libération.
Tenez bon, lui dit De Gaulle dans des textes qui sont connus et qu'il évoque également dans ses mémoires. Malgré votre jeune âge, en gros, implicitement, soyez la France à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il espérait, pendant qu'il était administrateur, que Saint-Pierre-et-Miquelon devienne un lieu de formation militaire de tous les citoyens qui, quelle que soit leur origine géographique, quelle que soit leur origine sociale, leur origine nationale, passaient par l'Amérique et voulaient s'engager dans la France libre.
Bon, il faut lui donner la parole, Alain Savary. Nous avons son témoignage grâce à l'émission Notoire qui s'appelait « L'oreille en coin » de Jean Garetto, qui était joyeuse mais qui néanmoins portait souvent son contenu fort. Il est invité le 21 septembre 1986. On entend en arrière-plan plusieurs des chansonniers qui, autour de Françoise Morasso, sous l'autorité de Jean Garetto, faisaient l'émission, Pierre Sacca, Maurice Sorgue et Jacques Maillot. Voici maintenant la voix d'Alain Savary évoquant des souvenirs.
Nous avons débarqué le 24 décembre avec l'amiral Muselier, Villefosse et moi, et d'autres bateaux, bien sûr, et d'autres. Et ça a été le ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France libre, grâce à un référendum honnête.
Et alors donc, vous avez réuni deux particularités à peu près semblables, c'est qu'à 23 ans, vous étiez gouverneur de Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 27 ans, vous étiez commissaire de la République à Angers. Comment avez-vous pu assumer, avec cette jeunesse, des postes aussi importants ?
À Saint-Pierre-et-Miquelon, on n'avait pas le temps de trembler. On avait tellement à faire. Il y avait la marine américaine qui a failli nous récupérer de force. Et nous, on était avec deux petits canons, 75 et 90. On aurait été braves jusqu'au bout, bien sûr. Enfin, et puis, il y avait Muselier au démarrage. Bon, ensuite, il y a eu la querelle Muselier-De Gaulle qui n'a pas facilité la tâche. Et Muselier était un homme assez extraordinaire, souhaitant séduire, et avant que l'évêque prenne position contre nous, il est venu nous rendre visite, et l'amiral a dit, écoutez, on va montrer que la France libre est très morale, quoi qu'on en dise, et on lui dit qu'on va fermer les maisons closes. Il lui dit, Monseigneur, nous allons fermer les maisons closes. Ah, dit Monseigneur Poisson, il n'y en a pas. Et Muselier, plein de zèle, lui dit, on va en ouvrir.
Oui, Jean Lebrun, le fait que surgisse cet évêque qui s'appelait Monseigneur Poisson n'est pas sans importance, car il incarne Vichy pendant très longtemps dans l'archipel, et que ça nous rappelle que celui-ci reste assez divisé politiquement.
Ben oui, on a cité le nom d'Henri Morazet, qui est le leader, peut-être, de l'opposition laïque aux Français libres. Les gros du quai sont appuyés par le clergé local, qui est conduit par un préfet apostolique, qui a presque rang d'évêque, qui s'appelle Monseigneur Poisson, et qui va multiplier tous les mauvais tours possibles pour gêner Alain Savary et ses successeurs. Alain Savary, qui est d'origine catholique, qui est resté jusqu'à la fin de sa vie, d'une certaine manière, fidèle au catholicisme.
Oui, on envoie d'ailleurs de Londres un jésuite pour concurrencer Monseigneur Poisson, mais celui-ci lui interdit de toute confession.
Il est extrêmement difficile, dit le père de Bélinet, que vous citez, l'aumônier de la France libre, pour un Saint-Pierrais d'aller à sa messe, à lui, l'aumônier de la France libre, parce que Monseigneur Poisson l'interdit. Et cette guerre de Monseigneur Poisson va durer jusqu'à la fin.
Finalement, on l'enverra quand même au Canada, qui à l'époque est très conservateur et qui l'accueillera très convenablement.
Le général de Gaulle l'avait mis dans la liste de ceux des membres du haut clergé qu'il fallait absolument écarter.
Il faut que nous achevions notre conversation. Et là, sur Saint-Pierre-et-Miquelon, Jean Lebrun, en évoquant l'après-guerre, en évoquant toute l'évolution, et en particulier ce drame qu'a été la fin de la pêche.
Mais avant la fin de la pêche, il y a eu un moment de sursaut. La grande pêche industrielle a régné pendant une décennie, un peu plus, autour des années 1950-1960.
La seconde période bénie, dorée, après celle de la Prohibition.
Monseigneur Poisson disait qu'il n'y avait pas de maison close à Saint-Pierre, mais il y avait des lieux de plaisir innombrables dans cette période. Par exemple, Joinville, un bar qui survit encore, et où se retrouvaient des pêcheurs venus du monde entier. Il y avait même les Soviétiques qui venaient dans les eaux de Saint-Pierre. Les Soviétiques, ils ne descendaient pas à quai, ils n'étaient pas autorisés. Mais les Allemands de l'Est, les Polonais, étaient autorisés à descendre.
C'est ajouté aux Canadiens, traditionnellement.
Voilà, aux Portugais, qui continuaient, avec des bateaux à voile encore, les bateaux de Salazar, qui pouvaient voisiner des chalutiers déjà industrialisés. Et tout cela se faisait d'ailleurs en même temps que était aménagé pour la première fois un aéroport, qui est utilisé maintenant l'été pour les voyages directs Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont possibles, et qui a été une grande aventure de modernisation aussi de l'archipel.
Ça change tout.
L'aéroport a recouvert les graves, les petits graviers.
Les petits graviers, oui.
Ça a été un drame extraordinaire, hein, la fin de la grande pêche, qui s'est manifestée à deux moments. Le bateau Croix de Lorraine, qui avait été offert par le général à Saint-Pierre-et-Miquelon, a prétendu continuer contre le vœu, l'obligation que le Canada avait émise de limiter, voire d'interdire la pêche. Et donc toutes les personnalités de Saint-Pierre-et-Miquelon se sont regroupées là pour marquer qu'elles voulaient que le destin de l'archipel continue. Et toutes ces autorités ont été arrêtées par les Canadiens. Puis un peu plus tard, au temps où Michel Rocard était Premier ministre, il y a eu une ultime défaite de la France face aux autorités canadiennes qui voulaient limiter encore davantage la pêche.
De Gaulle était mort à ce moment-là.
De Gaulle était mort. Mitterrand régnait, mais il s'intéressait guère à Saint-Pierre-et-Miquelon, évidemment.
Il fait d'ailleurs une visite tout de même, une seule, Mitterrand.
Et il est soutenu par Alain Savary, qui fait le déplacement pour la dernière fois. Il avait été élu de Saint-Pierre-et-Miquelon sous la 4e République. Ensuite,
député
il était passé à Toulouse, et il avait été un moment premier secrétaire du Parti Socialiste. Et Alain Savary, il avait été instruit de ce que c'était que la colonisation à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il avait réalisé ce que c'était qu'une colonie à Saint-Pierre-et-Miquelon, même si à Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de question raciale. Et c'était un combat continu chez lui.
Il finira également. D'ailleurs, il finira ministre de l'Éducation nationale, démissionnaire au moment de la crise de 1984.
Et il différait de beaucoup de François Mitterrand. Mais quand il s'est agi d'agir une dernière fois pour Saint-Pierre-et-Miquelon, il était très malade, il est venu accompagner le président de la République, qui essayait de défendre le point de vue de la pêche française. Peu de temps après, au temps de Michel Rocard, dernier acte de cette défaite de la pêche française, les Canadiens font obtenir par un arrêt international, d'arbitrage international, la définition d'une zone de pêche extrêmement restreinte pour Saint-Pierre-et-Miquelon. On appelle ça le tuyau de poêle, et les Saint-Pierrais s'en sont difficilement remis, et quand cette échéance approchait, ils ont empêché l'arrivée des forces de l'ordre par hélicoptère ou par avion. Tous les véhicules de Saint-Pierre-et-Miquelon se sont dressés, rassemblés à l'aéroport. Ils ont couvert d'inscriptions hostiles à Mitterrand et à Rocard les avions qui ont repris leur vol vers la France, où ils ont atterri un peu humiliés par les caractères qui avaient été dessinés sur leur carlingue.
Pourquoi tuyau de poêle ?
Le tuyau de poêle, c'est la zone d'espace exclusif maritime de la France dans la région. Elle est très difficilement exploitable.
Alors il reste un rôle qui peut être important, c'est celui d'observatoire du changement climatique accéléré.
Oui, c'est une vigie, Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'observation de l'accélération du changement climatique. La fonction publique est devenue très importante à Saint-Pierre-et-Miquelon, sans doute hypertrophiée. Les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon sont habitués à être beaucoup moins actifs que dans les générations précédentes. Ils le regrettent. Ce sont les circonstances qui les poussent à une certaine oisiveté, mais une certaine dépendance en tout cas. Et ils disent, si on a encore un rôle, c'est dans le domaine de la recherche scientifique, comme d'un observatoire qui permettrait de de mesurer les possibilités nouvelles. Saint-Pierre-et-Miquelon lance un appel à la France. L'archipel ne veut pas être un lieu de confinement, un lieu d'oubli. Il veut être respecté. Il y a au fond, sur la résidence du préfet qui flotte, le drapeau à croix de Lorraine. C'est un privilège de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et si vous voulez, la France dit qu'elle a un rôle dans le monde qui tient à sa présence maritime. Deuxième ou troisième espace maritime du monde. Saint-Pierre-et-Miquelon fait partie de ce maillage. Et alors, si on veut laisser à l'outre-mer un rôle dans cette perspective, il ne faut pas qu'on imagine qu'elle soit un lieu de bagne ou un lieu de rétention. Ce n'est pas possible en même temps.
Ça, nous l'avons bien compris. Je souhaite que, là-bas, si nous sommes écoutés et Concordance des Temps doit l'être, Saint-Pierre-et-Miquelon, et que ces îles et leurs habitants comprennent que nous avons souhaité leur adresser un salut fraternel. Jean Lebrun, votre ouvrage s'appelle « Ici, Saint-Pierre-et-Miquelon » et est paru il y a quelque temps chez Bleu Autour. Ce sont des éditions très courageuses, très inventives, autour de Patrice Rutig. Je tiens à le dire aujourd'hui, devant vous, Jean Lebrun, qui avait été si proche de Jean-Marie Borzex, ancien directeur magnifique de France Culture, il avait été publié par les éditions Bleu Autour, Les carnets d'un francophone en 2006, et L'homme qui aimait les arbres en 2018, c'était un hommage à son père. Vous avez aussi une dilection spécifique pour l'œuvre d'Eugène Nicole, L'œuvre des mers, aux éditions de l'Olivier 2011. Pourquoi l'aimez-vous tant?
Parce qu'il a fait de Saint-Pierre-et-Miquelon une matière littéraire. C'est un grand proustien et son cycle romanesque sur l'archipel, c'est l'équivalent de La recherche du temps perdu pour les habitants de là-bas.
Vous souhaitiez aussi que je cite le livre d'Edgar Aubert de la rue Saint-Pierre-et-Miquelon, Un coin de France au seuil de l'Amérique, publié par les Horizons de France en 1963.
C'est un géologue aventurier qui a beaucoup travaillé au Kerguelen et qui a séjourné très longtemps, souvent contraint et forcé d'ailleurs, pendant la guerre, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Photo extraordinaire, c'était un très grand photographe. Il y a beaucoup d'écrivains à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a beaucoup de photographes.
Dans la suite de Chateaubriand, c'est ça, que vous citiez tout à l'heure avec
Révérence. Oui, mais on pourrait citer le prince de Joinville, on pourrait citer Céline aussi, qui a été à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui dit « c'est un lieu qu'on se souvient ».
Avec une faute de
volonté
délibérée, naturellement. Vous trouverez un bon nombre d'autres ouvrages en ligne, et en particulier une référence au livre qu'a consacré à l'amiral Muselier, son petit-fils, Renaud Muselier, un livre récent qui mérite l'attention.
Il a été très bien reçu à Saint-Pierre-et-Miquelon, Renaud Muselier, quand il est venu en visite.
Un ciel souvent gris comme la Bretagne, des vents soufflant rarement de l'Espagne, un grand sourire traversant la brume, quand perce le soleil. C'est un morceau de France, un carrefour, où l'on retrouve une partie de nous. Des rues, des quais, des maisons, des bistrots, des bateaux, à l'abri de la mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Quand le temps est bon, c'est que la mer est calme comme en été. On danse encore au son de l'accordéon, on chante aussi de ces vieilles chansons qui parlent d'amour jamais revenu. Que les filles ont perdu, elles ont des yeux couleur de l'océan qui donnent envie de s'y noyer dedans. Elles sont troublantes, calmes ou bien farouches, on dirait qu'elles ressemblent à la mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Quand le temps est long.
Et tandis que nous entendons une chanson de Pierre Calvé de 2001, Saint-Pierre-et-Miquelon, je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet, une émission préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec Christophe Papon aujourd'hui à la prise de son, avec Keating Wang à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Hervé Evano.
Je sur la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon, quand le temps est rond, les marins le font tourner dans les cafés.